Alors bonjour à tous, et c'est toujours une joie de revenir ici, merci pour l'accueil que vous faites à nos enfants, et on est heureux de vous retrouver. Alors vous savez que c'est bientôt Noël, nous sommes donc avant Noël, ça crée comment avant? Ça crée comment avant Noël? Il est où AVENT? Alors justement, c'est de ça dont on va parler, on va parler de l'avant. AVENT, donc avant Noël, AVANT bien sûr, mais avant, l'avant c'est du latin adventus je crois, adventus domini, c'est en fait l'arrivée, ou bien la venue du Seigneur, l'avant. Alors nous on habite en Allemagne, c'est pour ça que je vous parle de l'avant, parce que semaine prochaine, dimanche, on allume une première bougie. Il y a 4 bougies, tout ça pour nous préparer à Noël. Mais en fait, ça nous prépare à la venue de Jésus à Noël, mais aussi ça nous rappelle d'attendre sa venue, sa deuxième venue, mais aussi pour être aussi prêt toujours à sa venue dans nos cœurs. Voilà un peu la pensée de ce Advent, Adventus Domini. Et alors, cette période de l'attente, de l'avant, de l'attente de la venue, eh bien, c'est ce qui caractérise un petit peu le chapitre 1 de Luc. Et je propose qu'on regarde ce chapitre 1 de Luc, avec des gens justement qui attendaient cette venue. Alors, on va donc commencer la lecture. Comme vous le savez, c'est un assez grand chapitre. Et c'est pour cette raison que nous ne regarderons pas le 1 et le 2 ensemble, mais on fera 2-3 remarques quand même qui concernent les deux, puisqu'ils forment un peu un tout. Évangile selon Luc. Puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, comme nous les ont transmises ceux qui, de le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, qui ai suivi exactement toute chose depuis le commencement, très excellent Théophile, de te les écrire par ordre, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Là, on a une petite introduction, on comprend vite que Luc va faire un travail d'historien, puisqu'il sait que d'autres ont commencé à rédiger, donc on sait qu'il y a d'autres auteurs qui ont travaillé le sujet. Donc il est au courant qu'il y a d'autres sources, d'autres ont commencé à rédiger un récit. Il nous précise bien que ces sources viennent de témoins oculaires, donc des gens qui ont vu des choses se passer. Et puis, lui-même, il a suivi exactement, donc il a fait un travail de scientifique, un travail d'historien, et on sait que le docteur Luc est un scientifique, est un médecin, et il va les écrire par ordre, donc il va... les mettre sur papier par ordre, un ordre qui sera un ordre, on va dire, théologique, on pourrait dire, pas forcément toujours chronologique, mais il nous va en faire une présentation pour nous enseigner et pour établir, pour que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Luc est un des plus grands auteurs du Nouveau Testament, en fait, un des plus grands auteurs même de la Bible. Il est le seul non-juif. Donc c'est quand même un cas particulier, on le voit dans l'épître aux Galates, aux Colossiens, je crois qu'il est non-juif, c'est ça. Et puis, on peut dire, si on reprend les 4 évangiles, on sait souvent un petit peu les grands thèmes de chacun des évangiles, mais on oublie peut-être parfois pour qui ils écrivent. Donc Matthieu, hein, qui présente plutôt le roi, Matthieu était un disciple, il va écrire plutôt pour les Juifs. Et il y aura plein de citations dans l'Ancien Testament. On sait que Marc, qui lui était Jean-Marc, qui n'était pas disciple, mais c'est un peu le serviteur de Pierre, donc on pourrait dire c'est un peu l'évangile de Pierre. Il va nous écrire plutôt pour les Romains, et il parlera du serviteur. Luc, le scientifique, le docteur Luc, le non-juif, va parler pour les Grecs, pour le monde de la science, pour le monde de la philosophie, pour le monde de la connaissance, et il est justement lui-même un non-juif. Et puis Jean, alors, et donc Luc va nous présenter l'homme. Jean est un disciple, un des 12, qui va nous présenter le Fils de Dieu, et il va parler, lui, à tout le monde, dans un langage à la fois très simple et, bien sûr, très profond. Alors l'évangile de Luc, Jésus homme, dont vous savez que ça c'est une lecture qu'on peut faire des quatre évangiles, mais vous savez bien que dans chaque évangile, tous les caractères du Seigneur sont également présentés. Hein. Donc il ne faut jamais se laisser enfermer par un cadre, par une lecture, mais peut-être un petit moyen mnémotechnique pour se souvenir que Luc c'est l'évangile de l'homme, c'est là qu'on le voit à table le plus souvent, je crois qu'on le voit 9 fois à table, quand même vraiment très particulier, très chaleureux, et puis c'est aussi là où on le voit 7 fois en prière. Alors, on commence la lecture au verset 5, au jour d'Hérode, roi de Judée. L'historien nous donnera toujours beaucoup de détails historiques, c'est lui qui parlera au chapitre 2 du recensement, de l'empereur, on entend parler des différents empereurs dans Luc. Donc, un historien qui n'a pas peur de nous faire des références historiques pour qu'on vérifie ses sources, pour qu'on vérifie son travail. Donc, il est vraiment très très précis, là il nous parle des jours d'Hérode. Avant de nous parler des deux empereurs tout à l'heure, enfin il y aura pas aujourd'hui, mais il y aura Auguste au chapitre 2 et il y aura Tibère au chapitre 3. Verset 5, au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia, et sa femme était des filles d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche, et ils n'avaient pas d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient tous deux fort avancés en âge. Alors on nous introduit Zacharie et Élisabeth, donc un couple d'un certain âge, encore en activité, mais effectivement, on va dire un quadra ou quinta, on ne sait pas. Voilà, un certain âge déjà, mais encore en activité. Et en fait, dans les deux chapitres de la Nativité de Luc 1 et 2, on a en fait 3 paires de personnes. Pas 3 couples, mais 3 paires. Et c'est très beau, on a ce couple-là en activité, un petit peu déjà avec un peu d'expérience. On a un tout jeune couple, Marie et Joseph. Et puis on a une paire de 2 personnes âgées, Siméon et Anne. Et ces 6 personnes, ces 3 paires, eh bien, nous présentent un peu 3 périodes de la vie. Ce jeune couple, ce couple un petit peu avancé déjà, et puis ces 2 personnes âgées. Et tous les 3 couples, ils attendent. Ils sont dans l'attente de la venue du Messie. Et on sait que Anne, la prophétesse, elle parlait à Jérusalem, à tous ceux qui attendaient la délivrance. Ça veut dire qu'elle les connaissait tous. C'est ça qui est beau chez Anne. C'est que la dame âgée Anne, elle était tout le temps dans le temple et elle connaissait tout le monde. On venait vers elle. Voilà, donc 3 étapes de la vie qui nous symbolisent un peu 3 périodes de la vie pour attendre le Seigneur et rester fidèle. Dans ces 2 chapitres, il y a aussi 3 fois le temple. On a un serviteur actif au temple, c'est Zacharie. C'est son, on va dire, lieu de travail. Mais c'est un lieu d'adoration, il est le sacrificateur. On a un jeune couple qui va avec un petit bébé présenter cet enfant au temple. Et puis un peu plus loin, on a un couple avec un ado de 12 ans qui vont aussi au temple. Donc, trois moments dans une vie, de nouveau, ce jeune couple qui va présenter son petit bébé, ce couple, donc c'est le même couple, c'est Marie et Joseph avec leur ado de 12 ans qui vont au temple, et puis Zacharie, un sacrificateur âgé, ou un peu plus âgé, qui accomplit son service. Le Saint-Esprit est aussi mentionné dans cette nativité, 7 fois, mais on ne va pas les nommer. Alors ce couple, Zacharie et Élisabeth, un beau témoignage. Ils étaient, verset 6, ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Vraiment une belle description. Et après, effet de surprise, un petit peu coup de théâtre, ils n'allaient pas d'enfants. Et ce qu'elle nous rappelle, ça nous rappelle que les justes, les fidèles, souffrent aussi. Et que la souffrance n'est pas du tout épargnée aux fidèles, aux justes, à ceux qui marchent, qui sont sans reproche, à ce beau couple-là, eh bien malheureusement, la souffrance n'est pas épargnée. On sait que la souffrance est grande, ne pas pouvoir avoir d'enfants, et en plus, il y avait dans cette époque-là, en plus de la souffrance de tout couple de ne pas avoir d'enfant, il y avait l'aspect opprobre, verset 25, pour ôter mon opprobre, donc le côté de la honte sociale de ne pas pouvoir avoir d'enfant en Israël, qui était bien sûr assez fort. Alors, Zacharie, verset 8, « Il arriva, pendant qu'il exerçait la sacrificature devant Dieu, dans l'ordre de sa classe, et classe qui avait été instituée, semble-t-il, du temps de David, selon la coutume d'un sacrificateur, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Et toute la multitude du peuple priait dehors, à l'heure du parfum. Et un ange du Seigneur lui apparut, se tenant au côté droit de l'autel du parfum. Et Zacharie, le voyant, fut troublé, et la crainte le saisit. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Zacharie, parce que tes supplications ont été exaucées, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. » Alors, le sort lui échut, donc il y a un moment, il a droit d'aller au temple. Quand même, ils étaient nombreux, les sacrificateurs à force, hein, les différentes classes, chacun peut-être dans son mois, etc. Mais enfin, être celui qui offre le parfum, c'était peut-être pas si souvent, peut-être une fois dans une vie, on ne sait pas. En tout cas, premier signe peut-être à ce moment-là pour lui, le sort lui échoit d'aller offrir le parfum. Deuxième signe, voilà que un ange du Seigneur lui apparaît. Avec un détail quand même, comme si on y était. Parce qu'on précise que c'est du côté droit. Donc ça veut dire qu'à un moment, ça s'est raconté tout ça. Et ça lui a tellement marqué que Zacharie, en racontant, il a précisé à tout le monde que c'était à droite. Et on sait qu'ils s'en sont parlé, ce petit groupe. Et ensuite, Luc l'historien, eh bien, il a rassemblé des informations. Et il nous raconte que c'était à droite, du côté droit. Deuxième signe, le sort. Ensuite, un ange. Et puis, troisième signe, c'est qu'en fait, l'ange lui dit « Tes supplications ont été exaucées. » Tiens, il était au courant des prières de Zacharie. Il était au courant des prières de Zacharie. Et sûrement que Zacharie priait pour avoir un enfant. Et voilà qu'on est un chrétien engagé, on est un chrétien dans la prière, on est dans le service, on a une vie qui honore le Seigneur. On a même des signes, des choses qui nous encouragent. Et au moment où arrive la réponse, on y croit. Hein, c'est l'incrédulité des croyants. C'est l'incrédulité des croyants. Il nous est montré ici. Donc un peu la nôtre. Alors, l'ange lui parle. Il sera pour toi, tu appelleras son nom Jean. Jean, donc Dieu a fait grâce. La grâce, ça va être la révélation de la grâce, ça sera en la venue de Jésus. Donc en fait, Jean, son prénom à lui-même, nous annonce encore une grâce qui va arriver. Et ce sera en Jésus qu'elle va se manifester. Et il sera pour toi un sujet, verset 14, un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Sujet de joie, un petit bébé, sujet de joie pour un papa. Intéressant. On pense toujours à la joie de la maman, mais il y a la joie de papa. Sujet de joie pour un papa. Et le vieil Isaac, lui, il était triste avec Ésaü. Il était amertume dans l'âme avec les problèmes qu'il avait avec ses enfants. Mais ici, on a un sujet de joie pour un papa. Et on a aussi la pensée que cet évangile est plein de joie et que l'annonce de l'évangile est liée à la joie. Verset 15. « Car il sera grand devant le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. » Quand on lira tout à l'heure la même parole du même ange à Marie, pour Jésus, il sera grand. Pour Jésus, c'est absolu, il sera grand. Pour Jean, c'est il sera grand devant le Seigneur. Il y a une référence, le Seigneur. Il sera grand devant le Seigneur. Et il ne boira ni vin ni cervoise, et il sera rempli de l'Esprit Saint déjà, dès le ventre de sa mère. Ouh. Ça, c'est moderne, alors. Hein. Ça, c'est moderne de nous parler ici de ce qui se passe dans le ventre. De nous dire qu'on peut être plein de l'Esprit Saint dans la matrice, dans le ventre d'une maman. Et attention à à l'alcool pendant cette période. Lui ne boira rien et elle, elle va sûrement faire attention. Parce que lui ne boira ni vin ni cervoise et sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Et il fera retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui dans l'esprit de la puissance d'Élie pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la pensée des justes pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il viendra dans la puissance d'Élie, c'est l'accomplissement d'une prophétie de Malachie où on attend effectivement Élie qui va revenir. Et le Seigneur Jésus expliquera à ses disciples qu'en fait, oui, Élie est déjà venu et ils ont compris, ah, ils ont compris qu'il parlait de Jean le Baptiste. Donc il est venu, on ne pense pas que ce soit Élie vraiment qui est redescendu de son chariot de feu, c'est Jean était vraiment un monsieur différent d'Élie, mais il est venu dans la puissance, dans l'esprit et la puissance d'Élie, et Jésus dit, oui, mais Élie est déjà venu, et ils ont compris que c'était Jean. Et pour faire retourner les cœurs des pères vers les enfants, et aussi pour faire retourner plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. C'est un beau ministère, finalement, ce ministère parmi les croyants, de réchauffer les cœurs, pour que des enfants retrouvent des relations avec des parents, des enfants qui peuvent s'être éloignés, ou bien pour que des familles elles-mêmes se retournent vers le Seigneur. Donc ici, on a un ministère de Jean, pour le peuple, pour les gens de son peuple, pour les préparer aussi, voilà, pour nous aider les uns les autres aussi à nous préparer à retrouver la présence du Seigneur. Un ministère où on peut s'aider les uns les autres à rencontrer le Seigneur, à retrouver le Seigneur. Alors, Zacharie, verset 18, et Zacharie dit à l'ange, mais comment connaîtrais-je cela? Car moi, je suis un vieillard, et ma femme est forte avancée en âge. C'est pas possible, ça marche pas, comment connaîtrais-je cela? Et il explique en plus pourquoi, je suis un vieillard, et ma femme est forte avancée en âge, ça va pas marcher. Donc, voilà un homme de foi, qui prie. Il est dans le temple. S'il y a un endroit pour avoir une vision, ben c'est le temple. On est dans le bon endroit pour la vision. Et la vision arrive, réponse à ses prières, avec tous les instants pour le truc, pour bien l'encourager. Regarde, tu as été tiré au sort, je suis apparu, je suis au courant de tes prières. Enfin, il y avait des éléments quand même pour l'aider à croire. Rien n'y fait. Notre incrédulité, elle est dure comme fer. Pourtant, on prie, mais on n'y croit pas. On a du mal. Quand même une leçon hein, aussi pour nous. Ça ne devrait pas nous décourager à prier. Mais voilà, ça nous encourage à se mettre en question. Et alors d'ailleurs, l'ange est un peu estomaqué, un petit peu déçu. Et l'ange répondant lui dit, mais moi je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu, et j'ai été envoyé pour te parler. Alors je suis l'ange Gabriel, donc il y a mais quelques centaines d'années après sa première apparition dans le livre de Daniel, qui en plus avait donné la date de la naissance du Christ, le même Gabriel arrive quelques centaines d'années après, et il dit, mais moi je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé. Tiens, j'ai été envoyé, passé, je me tiens devant Dieu, présent. Voilà un ange qui se tient devant Dieu encore pour son service. Bon exemple aussi pour nous, pour notre service. Que je me tiens devant Dieu. Il se tient, il est au présent, il est au service, il a été envoyé, il est venu, donc il est au service, et au service, il se tient devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Il est déçu, il est triste, il n'est pas, mais là, il dit qu'il n'est pas blessé, mais voilà, un petit peu, et ça peut nous arriver nous aussi. Hein, on annonce une bonne nouvelle à quelqu'un, et puis, il n'y a pas de réaction. Et il n'y a pas d'enthousiasme de l'autre côté. Donc, voilà, Gabriel exprime ça. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Et le peuple attendait Zacharie, et il s'étonnait de ce qu'il tardait tant dans le temple. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler. Ils reconnurent qu'il avait eu une vision dans le temple, et lui-même leur faisait des signes, et il demeura muet. Et il arriva que quand les jours de son ministère furent accomplis, il s'en alla dans sa maison. Voilà, le voilà réduit au silence, parce que notre incrédulité aussi, elle ferme notre bouche. La foi nous fait parler, l'abondance du cœur, la bouche parle, et j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais voilà, l'incrédulité, elle ferme la bouche. Verset 24. Or, après ces jours, Élisabeth, sa femme, conçut. Et elle se cacha 5 mois, disant, « Le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Alors, c'est assez beau. D'abord parce que elle ressent que le Seigneur l'a regardé. Le Seigneur l'a regardé dans sa souffrance, dans ses prières, dans son attente. Le Seigneur m'a regardé. Elle se sent sous le regard bienveillant du Seigneur, elle qui a souffert, elle qui avait une opprobre à porter parmi les hommes. Et alors, elle se cacha 5 mois. Intéressant ça aussi. Elle a une merveilleuse réponse à sa prière. Mais elle ne va pas en faire la publicité. Elle va finalement attendre que ça se voit. Elle va attendre que, voilà, tout le monde voit que Dieu a agi dans sa vie. Et ça nous arrive de voir des fois envie de raconter les expériences de prière que nous avons faites. Et ça tombe un peu à plat. La personne en face elle trouve que ce n'est pas vraiment Dieu qui est intervenu. Enfin bon, attends un peu à plat. Donc il y a une discrétion chez Élisabeth liée à ce qu'elle a vécu. Elle dit voilà, Dieu intervient dans ma vie, eh bien, je ne suis pas obligé d'en faire la publicité. Ça se verra bien quand ça se verra. Donc une belle discrétion. Après, et verset 26, et au 6e mois, l'ange Gabriel, donc le même, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, nommé Nazareth. Donc cette fois-ci, on n'est plus au temple de Jérusalem, on remonte en Galilée, à Nazareth, à une vierge, fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole. Et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand. » et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Et Marie dit à l'ange, « Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte personne qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Et voici Élisabeth, ta parente. Elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois pour celle qui était appelée stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit, « Voici l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Alors voilà, l'ange arrive, c'est l'annonce à Marie, avec ses belles expressions. Tu es bénie, je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur, cette faveur dans laquelle nous aussi, nous sommes dans l'épître aux Éphésiens, agréable dans le bien-aimé. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, pas au-dessus des femmes, mais entre les femmes, et tu as une bénédiction, bien sûr, toute particulière. Elle a été choisie, bien sûr, dans la lignée de David. Elle a été choisie dans la lignée de David, et elle est fiancée à Joseph de la maison de David. L'expression « de la maison de David » pourrait se rapporter à elle, une vierge de la maison de David, ou bien à lui, puisqu'elle est fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David. Mais les deux sont vrais. Et d'ailleurs, quand après l'ange lui dira, verset 32 à la fin, lui donnera le trône de David, son père, donc il lui explique, regarde, tu vas avoir un petit bébé, et David, son père, donc on comprend bien vraiment que Marie est elle aussi de la maison de David. Et on peut penser que la généalogie qui est dans l'évangile de Luc, probablement la généalogie de la maman. Hein. On a deux généalogies en général, papa et maman, comme il y en a deux dans les évangiles, qu'elles sont différentes puisqu'elles se divisent sous David, l'une qui passe par Salomon et qui va jusqu'à Joseph, et l'autre qui passe par Nathan et qui va jusqu'à Marie, probablement, même s'il y a quelques croisements au milieu, on a quand même deux généalogies distinctes, un papa, une maman, ça paraît assez normal. Donc, elle est, elle aussi, de la maison de David. Donc, quand même, on a la situation que l'annonce a lieu à Nazareth, dans cette ville dont on sait qu'elle est un petit peu mal vue. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? En Galilée, en plus, la Galilée mal vue. Y a-t-il un prophète qui peut venir de Galilée? Donc, on est dans un contexte très modeste. Et on sait qu'ils sont assez pauvres, les deux. Et en fait, c'est le prince Joseph est charpentier à Nazareth. Il est fiancé avec quelqu'un, une cousine très très éloignée, mais une cousine qui est aussi de la maison de David. Ils sont tous les deux héritiers, et celui qui est héritier du titre par la voie royale, c'est Joseph, et elle est de la lignée, elle est dans la lignée du sang. Voilà, donc c'est dans ce contexte que l'annonce a lieu, et qu'on a ces expressions très belles sur le Seigneur. Donc son nom est annoncé, tu appelleras son nom Jésus, qui veut dire Yahvé ou l'Éternel sauve, et il sera grand, comme on l'a dit, absolu, une grandeur absolue, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Donc, tout de suite, on comprend la grandeur du personnage avec son côté roi, un trône qui durera toujours, et puis fils du Très-Haut, et quand on lit plus loin, fils de Dieu. Donc trois titres, fils du Très-Haut, fils de Dieu et roi, qui sont ici proposés dans ce petit paragraphe. Et puis on comprend aussi dans le paragraphe qu'il y a l'humanité et la divinité du Christ qui sont présentées, et la façon dont c'est expliqué, voilà, elle demande, mais comment ces choses peuvent-elles se faire? Moi, je ne connais pas d'homme, donc elle demande, elle dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut peut-être qu'on se marie? Non, verset 35, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte personne qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Donc on a ici un vocabulaire très en sang, très saint, très, très soigneux, parce qu'on ne sait pas trop exactement comment ça se passe, mais pour nous montrer que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est l'incarnation, c'est vraiment un petit bébé qui va naître d'une femme. Il est parlé aussi de son ventre, verset 31, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils. Donc c'est vraiment l'incarnation. Galate, il est né de femme, il est né sous la loi. mais sa divinité est bien sûr soulignée, fils du Très-Haut, fils de Dieu, sainte personne qui naîtra, sa divinité est soulignée, et puis ses gloires royales avec le fait qu'il est lui-même l'héritier de David et qu'il va régner sur un règne qui ne s'arrêtera jamais. Dans la Genèse, il était annoncé que le Messie serait la semence de la femme. Effectivement, il n'est pas, c'est précisé parce qu'elle pose la question, c'est précisé, non, non, il n'y a pas de semence d'homme. Effectivement, fils d'une femme, mais Dieu va faire en sorte qu'il y ait un petit bébé. Alors, quand elle répond « Comment ceci arrivera-t-il ?», ce n'est pas la même chose que Zacharie. Zacharie, c'est « Comment connaîtrai-je cela ?» Car moi, je suis un vieillard et ma femme est forte avancée en âge. Donc, en fait, ça ne marche pas. C'est possible, ça ne marche pas. Elle, c'est l'inverse. C'est comment ça va marcher? Parce qu'elle dit, comment ceci arrivera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. Donc, voilà. Comment ça va se faire? Mais ça va se faire. Elle a, on voit que ce n'est pas du tout la même attitude. Et l'ange voit bien la différence. Il lui explique. Et ensuite, on voit bien son attitude à elle. Voici l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, elle est totalement disponible à ce que l'œuvre de Dieu se fasse. Et le fait qu'elle soit bénie ne fait pas qu'elle devient orgueilleuse, l'inverse, je suis l'esclave du Seigneur, donc elle est immensément bénie, un privilège unique dans l'histoire, évidemment, de tous les temps, eh bien, elle est quand même toute humble, et elle est l'esclave du Seigneur, et elle demande à ce que les choses soient faites. Alors Marie, se levant ces jours-là, verset 39, s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Élisabeth et Zacharie, un couple qui habite ensemble. Les parents service. Hein. C'est la maison de Zacharie, il y a Élisabeth, elle habite au même endroit. Petit détail. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il arriva comme Élisabeth entendait la salutation de Marie, que le petit enfant, donc d'Élisabeth, Jean, le baptiseur, qui avait 6 mois d'avance sur Jésus, le petit enfant tressaillit dans son ventre. Et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et elle s'écria à haute voix et dit « Tu es bénie entre les femmes et béni est le fruit de ton ventre. Et d'où me vient ceci que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? Car voici, dès que la voix de ta salutation est parvenue à mes oreilles, le petit enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Et bienheureuse est celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Non, Marie, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire, l'annonce de l'ange, et quelque part, elle a un secret. Eh bien, elle veut partager ce secret. Et alors, comme l'ange lui a parlé de la cousine Élisabeth dans les montagnes, eh bien, elle monte à la montagne pour aller partager avec cousine Élisabeth. Voilà, ça nous encourage à monter à la montagne, partager avec des personnes notre secret. Et on a des moments de communion, des moments de partage entre croyants sur notre secret, sur ce que le Seigneur nous a fait comprendre. Et ça se passe dans les montagnes, souvent, au sens spirituel, près de Dieu. Je vais monter sur la montagne. Monte dans la montagne, elle entre dans la maison, elle salue. Et puis, ce petit enfant donc tressaillit dans son ventre. Élisabeth est remplie et elle fait une déclaration, donc un premier chapitre. Alors, dans ces chapitres, on a quand même une structure hein, dans les deux chapitres, avec un enchaînement et beaucoup de parallèles entre les deux récits, hein, les deux annonces, les deux petits bébés. Hein, si on se le remémore, on a l'annonce de la naissance de Jean, qui a été suivi par l'annonce de la naissance de Jésus. Ensuite, on a cette première louange avec un chant ou une louange d'Élisabeth, suivie par celle de Marie. Donc, on a Jean, Jésus, avec les deux mamans. Puis après, on va voir la naissance de Jean, et on aura la louange de Zacharie. Puis on aura la naissance de Jésus et on aura la louange de tous les autres, à savoir les anges, les bergers, Siméon et Anne. Donc c'est à la fois très parallèle, qui nous montre que les deux histoires sont totalement liées l'une à l'autre, et Jean est le précurseur de Jésus, beaucoup de parallèles dans la construction des deux chapitres, mais évidemment une abondance de louanges pour le Messie, avec en tout, dans ces chapitres, 7 chants de louanges qu'on vient de citer, Élisabeth, Marie, Zacharie, les anges, les bergers, Siméon et Anne, donc 7 moments de louanges pour donc déboucher sur toutes ces louanges autour du Messie. Et donc le deuxième chant de louanges, c'est Marie, c'est le Magnificat. Et Marie dit « Mon âme magnifie le Seigneur », donc le Magnificat. Alors si on pense aux quatre plus particuliers parmi les 7, c'est le Magnificat. Il y aura le Benedictus avec le verset 67, Zacharie qui dit « Béni soit le Seigneur ». Et puis au chapitre 2, on aura le Gloria, Gloria in excelsis Deo. Donc c'est « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts », ça sera le verset 14 du chapitre 2. Et puis on aura le « Maintenant Seigneur » du vieux Siméon, qui est le « Nunc Dimittis ». Là, je ne parle pas latin. Hein. Donc je laisse au latiniste vérifier mon latin. « Nunc Dimittis ». Donc voilà les 4 chants. Donc c'est beau quand même, cet historien Luc, qui nous a donné ces chants de Noël, et qui ont été mis en musique, évidemment, hein, au cours des âges. Donc c'est très très beau qu'il nous ait gardé toute cette magie, on dit, de cette période-là, avec tous ces chants. Et alors, on a donc le Magnificat, qu'on ne va pas étudier en détail, mais juste le lire, verset 46, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon Sauveur. Car il a regardé l'humble état de son esclave, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Mon âme magnifie le Seigneur. » Magnifier, donc ça veut dire rendre plus grand. On va rendre plus grand Dieu, ça ne marche pas. Hein? Donc on rend plus grand à nos cœurs. On rend plus grand au cœur des autres. Un peu dans le télescope, je contemple une étoile loin d'elle. Elle est gigantesque, mais plus je la regarde, alors je magnifie avec un magnifier, avec quelque chose qui va le faire grandir. Et bien sûr, ça ne va pas changer la taille extraordinaire de cet objet céleste qui est loin. Mais je le grandis pour en contempler toujours plus de substance. Le Puissant m'a fait de grandes choses et son nom est saint. Sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi puissamment par son bras. Il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. Il a fait descendre les puissants de leur trône. Il a élevé les petits. On pourrait mettre des parallèles avec plusieurs textes de l'Ancien Testament qui peuvent nous laisser penser que Marie, elle connaissait un peu ces textes. Et alors, dans son propre champ, eh bien, elle les utilise peut-être, certains d'entre eux. Par exemple, verset 49, « Le Puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint. Le Puissant qui m'a fait de grandes choses. » J'ai noté ici au psaume 126, « L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en avons été réjouis. » Ou bien, « Sa miséricorde est de génération en génération. » Le verset 50. Alors, psaume 103, « L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Ou bien, verset 51, « Il a agi puissamment par son bras, il a dispersé les orgueilleux. » Exode 15, « Ta droite, ô Éternel, s'est montrée magnifique en force. » Et puis, verset 52, « Il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les petits. » On pense au cantique de Anne dans 1 Samuel 2, « De la poussière, il fait lever le misérable de dessus le fumier, il élève le pauvre. » Tout ça pour dire que dans nos chants, dans nos cantiques, dans nos louanges, eh bien, on peut... on utilise des versets de la parole, on utilise des choses que l'on a lues, entendues. Donc on se passe le relais, les uns les autres. On mélange des cantiques pour en créer de nouveaux. On est nourri finalement par la parole, on est nourri par le ministère des autres et on redonne au Seigneur. C'est un peu ce qu'elle fait ici dans ce très très beau cantique. Il a rempli de bien ceux qui avaient faim, il a renvoyé les riches à vide, verset 54. Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères envers Abraham, envers sa semence à jamais. Et Marie demeura avec elle environ 3 mois, et elle s'en retourna à sa maison. 3 mois de communion, de communication, où elles se sont sûrement racontées tout ce qui s'est passé. Et donc, tous les petits détails sur les anges, sur Gabriel, tout ce qui a été dit, ça fait partie de ces choses où il y a plusieurs personnes qui en parlent entre elles, et quand plusieurs personnes parlent entre elles de choses, eh bien, on aura plus facilement de la matière au moment où un historien doit aller chercher des sources, des preuves, pour nous écrire tout ça. Un petit détail, c'est Élisabeth, verset 43. D'où me vient ceci que la mère de mon Seigneur vienne là. Mon Seigneur, 4 fois dans le Nouveau Testament, 2 femmes, 2 hommes. Donc les 2 femmes, c'est, tu as l'air de savoir. Donc les 2 femmes, c'est Élisabeth et Marie de Magdala. Hein, on a enlevé mon Seigneur, je ne sais où on l'a mis. Et les 2 hommes, Thomas, mon Seigneur, mon Dieu, et alors oui, ça plutôt Paul, parce que si en Nouveau Testament, plutôt Paul qui dit dans Philippiens, je crois, je crois que c'est dans Philippiens, il parle de mon Seigneur. J'ai regardé comme des ordures et mon Seigneur devant. Donc voilà, mon Seigneur, 2 hommes, 2 femmes qui expriment ce beau, cette belle chose. Alors, on arrive à la première naissance, et comme annoncé, on ne lira pas la seconde, puisqu'on s'arrêtera à la fin du chapitre. Mais ce n'est pas encore Noël, c'est l'avant. Donc Noël pourrait lire à Noël. Verset 57. Or, le temps où elle devait accoucher fut accompli pour Élisabeth, et elle mit au monde un fils. Et ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle. Ils se réjouirent avec elle. Et il arriva qu'au 8e jour, il vint pour circoncire le petit enfant. Et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Et sa mère dit, non. Non. Il y a parfois de la pression. Il y a parfois de la pression morale, de la pression sociale, de la pression spirituelle. Les amis, la famille, les coutumes, on a toujours fait comme ça. Et tout le monde vient avec beaucoup d'enthousiasme, et on va circoncire le petit, et on va l'appeler Zacharie. Et il y a un moment, il faut savoir dire non. Et c'est le nom de la foi, et c'est le nom de l'obéissance. L'ange avait parlé de Jean. Ça prouve d'ailleurs qu'ils s'étaient parlé les deux. Alors, il est muet, hein. Il est muet, mais ils se sont parlé quand même, hein, pendant 9 mois. Ce couple, il fonctionne. Ils se sont raconté tout ça. Même le muet. Et donc, la maman, quand il s'agit de dire, c'est elle qui a le courage de dire à tout le monde, non. Non. Mais il s'appellera Jean. Et le pire, c'est que tous les voisins et tous ses amis, toute la famille, tout ça, mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne s'arrêtent pas là. Hein, le rouleau compresseur de la pression, on l'a vécu. Donc ça continue, au point de la mettre en porte-à-faux, parce qu'ils vont vouloir faire parler le papa, et dire, mais enfin, il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. Donc ils commencent à lui faire des reproches, et ils firent signe à son père. Attends, non, mais on va t'expliquer, c'est sûrement faux, on va demander au papa. En plus, on va la mettre en porte-à-faux, en public, vous imaginez. Et ils firent signe à son père qu'il déclara comment il voulait qu'il fût appelé. Et ayant demandé des tablettes, il écrivit disant « Jean est son nom ». Ah, ça c'est beau aussi. C'est aussi la foi. C'est l'obéissance. Et puis, c'est pas d'amertume, parce que qu'est-ce qui se passe ? Jean est son nom. Et ils en furent tous étonnés. Et à l'instant, sa bouche fut ouverte et sa langue déliée, et il parlait « Louant Dieu ». Voilà quelqu'un qui a été sous la discipline pendant 9 mois. Et au moment où il exprime sa foi, au moment où il montre que cette discipline, il l'a vécue pour lui et qu'elle a porté du fruit, eh bien, il n'est pas dans l'amertume, il n'est pas dans la vengeance, il ne ronge pas son frein. Il a accepté ce que le Seigneur lui a dit. Et il montre là sa foi, son obéissance, et tout de suite sa bouche s'ouvre en louant. Alors c'est un très bel exemple. Très bel exemple, d'ailleurs, c'est très variable. C'est la discipline que Dieu peut nous appliquer à nous. Mais on peut le vivre aussi dans l'église, on peut le vivre dans la famille, avec des enfants, on peut le vivre même dans le travail. On peut vivre des moments où on nous fait un reproche, où on nous remet, où on a été amené à être un peu recadré, comme on dit. On peut être amer, ou on peut prendre la discipline, prendre le message, prendre le feedback, on dirait de façon plus moderne. Le prendre, l'intégrer, le travailler et repartir avec enthousiasme, et c'est ce que nous montre ici Zacharie. Quel cantique après 9 mois de silence. Donc, il se met à louer. Tous leurs voisins furent saisis de crainte. On s'entretenait de toutes ces choses par le pays des montagnes de la Judée. Tous ceux qui les entendirent les mirent dans leur cœur, disant « Mais que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Et Zacharie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint. Donc, encore l'Esprit Saint, on a dit 7 fois dans ces 2 chapitres. Et prophétisa disant « Béni soit le Seigneur, c'est le Benedictus, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple, et nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps, une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent pour accomplir la miséricorde envers nos pères. » Et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder, étant libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en sainteté et en justice, devant lui tous nos jours. Et toi, petit enfant ? Ah mais il ne parlait pas du petit enfant ? Ah mais on est à la naissance du petit, on l'a attendu toute sa vie, le bébé est arrivé, et on chante, et on ne parle pas du bébé. Il parle de Dieu, il parle du Seigneur, il parle du Christ, il parle du Messie. Il est rempli du Messie. Et tout le début de son cantique, c'est de l'adoration pour Dieu. Tout le début de son cantique, c'est de s'intéresser au Messie, à celui qui va être cette délivrance des ennemis, à celui qui va accomplir la miséricorde. Et donc, ce n'est que après qu'il va parler du petit enfant ou qu'il va parler au petit enfant. Avec cette belle expression qui peut nous parler aussi, verset 75, le servir sans crainte, en sainteté et en justice, tous nos jours. Sans crainte, l'amour parfait chasse la crainte. Dans notre service, on ne doit pas craindre. Le servir sans crainte, en sainteté et en justice, devant lui, tous nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu iras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Prophète du Très-Haut. Tiens, c'est la 3e fois qu'on a Très-Haut dans nos chapitres, dans notre chapitre. Là, c'est la 3e. On avait eu au verset 32, il sera appelé le fils du Très-Haut. Et puis verset 35, l'explication, la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Donc le Très-Haut, c'est le nom que Melchizedek avait enseigné à Abraham en Genèse 14. Donc c'est vraiment le Dieu de tous les hommes, de toute la création. Parce que Melchizedek, vous vous souvenez, était un sacrificateur du Très-Haut, sans être dans la lignée officielle de la foi et d'Abraham. Donc c'est vraiment, lui-là, il est prophète du Très-Haut, Jésus, il est fils du Très-Haut, et c'est la puissance du Très-Haut qui a donné la naissance à Jésus. Pour préparer ses voies, verset 77, pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés, par les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités. L'Orient d'en haut, qui est aussi une belle expression, qui nous parle de Jésus, qui nous parle de sa venue, qui est comme ce soleil de justice, comme la venue d'un nouveau jour. L'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Ça fait penser à Ésaïe, où un enfant nous est né, un fils nous a été donné, Ésaïe 9, où la lumière a resplendi dans les ténèbres. Afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. Ça, c'est toute la vie chrétienne, le chemin de la paix. Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il fut dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Voilà ce prophète qui va grandir et puis qui va prendre son indépendance vis-à-vis des parents et qui va partir dans les déserts et qui va être préparé pour son service. Voilà, on s'arrête là. On aurait envie de fêter Noël, mais c'est pour plus tard. Avec ces beaux témoins, des gens qui attendent la venue de Jésus.